Bonjour. Vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans l'émission des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Patchwork de mots, de notes et de sons. Et si tout ceci n'était qu'une suite de rencontres? Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés.
Bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore. Hourra. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé?
Non, c'est sorti.
Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord?
Oui,
monsieur. Alors, du coup, et un peu vite!
La bourgeoisie travaillant pour elle seule, exploitant pour elle seule, massacrant pour elle seule, il lui est nécessaire de faire croire qu'elle travaille, qu'elle exploite, qu'elle massacre pour le bien final de l'humanité. Elle doit faire croire qu'elle est juste et elle-même doit le croire. Monsieur Michelin doit faire croire qu'il ne fabrique des pneus que pour donner du travail à des ouvriers qui mourraient sans lui. Paul Nizan, Les Chiens de Garde, 1932. Qu'est-ce que la violence? Pas seulement des coups de poing ou des coups de couteau, des agressions physiques directes, mais aussi celle qui se traduit par la pauvreté des uns et la richesse des autres, qui permet la distribution des dividendes en même temps que le licenciement de ceux qui les ont produits, qui autorise des rémunérations pharaoniques en millions d'euros et des revalorisations du SMIC qui se comptent en centimes. Mobilisés à tous les instants et sur tous les fronts, les plus riches agissent en tenue de camouflage, costume, cravate et bonne manière, sur le devant de la scène, exploitation sans vergogne des plus modestes, comme règle d'or dans les coulisses. Cette violence sociale, relayée par une violence dans les esprits, tient les plus humbles en respect. Le respect de la puissance, du savoir, de l'élégance, de la culture, des relations entre gens du beau et du grand monde. L'accaparement d'une grande partie des richesses produites par le travail dans l'économie réelle est organisé dans les circuits mafieux de la finance gangrénée. Les riches sont les commanditaires et les bénéficiaires de cette violence, aux apparences savantes et impénétrables, qui confisque les fruits du travail. À travers les chroniques de la guerre sociale en cours, nous allons observer les visages des vrais casseurs. En nous appuyant sur du concret, des descriptions de lieux et de faits, et l'analyse des mécanismes de cette violence insidieuse venue d'en haut. La crise est celle de vies brisées, amputées de tout projet d'avenir, dans cette immense casse sociale à laquelle les dirigeants politiques de la droite et de la gauche libérale se sont associés.
Breathe.
à propos de patrons spéculateurs et de salariés jetables. Dans les années 70, lorsque Michel et sa famille présentent Nouzonville à Monique, petite bourgeoise d'une autre province, la ville sent le fer et les usines s'imposent à la vue par les grands portails ouverts sur des cours encombrés de pièces métalliques. C'est le décor de l'enfance du père de Michel qui y fut un temps ouvrier polisseur. Lorsque son fils devenu sociologue vient y enquêter au début des années 80, alors que la mutation d'un capitalisme industriel en capitalisme financier est en cours. Les marteaux-pilons constituent encore le fond sonore permanent de la ville de l'aube à la tombée de la nuit. L'habitat et les usines sont imbriqués. Les ateliers sont ouverts sur la rue. Le bruit du moindre tour parvient aux oreilles du passant. On prend la gamelle dehors pour profiter du soleil ou de la paix du soir. Et il n'est pas rare de voir les enfants ou une épouse venir bavarder avec le père ou le mari le temps de la pause. L'hiver, l'usine se fait à peine plus discrète. À l'heure de la prise de poste, du changement d'équipe, les rues encombrées par des camions de barres d'acier, de ferraille, de pièces en tout genre, se remplissent d'hommes en bleu. Cette circulation rend évidente l'existence d'un organisme unique. La ville et l'usine vivent en symbiose. 40 ans plus tard, les Ardennes sont sinistrées. La vallée de la Meuse, désormais silencieuse, est une succession de friches industrielles qui inscrivent dans le paysage les méfaits du système capitaliste portés à leur paroxysme par le néolibéralisme. La financiarisation et la mondialisation ont sévi et les boutiques, comme on dit là-bas, ont fermé. Nos cimetières de l'emploi sont complets, proclame une banderole tendue dans la ville morte de Revin en janvier 2011, alors que l'usine Porsche, dépendant du groupe international Ideal Standard, dont le siège est à Bruxelles, vient de fermer, faisant 146 chômeurs de plus. Entre 2001 et 2011, les Ardennes ont perdu 6300 emplois. Le dernier coup porté à une industrie moribonde a été l'annonce de la fermeture à l'horizon de 2014 de l'usine du groupe suédois Electrolux, toujours à Revin, petite ville de 7400 habitants. Cette annonce a été précédée en 2012 par la délocalisation de la production des lave-linges vers le site d'Olawa, en Pologne. Le comte Guillaume Duret de Noainville, PDG d'Electrolux France depuis 2001, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et détenteur d'un exécutif MBA de HEC, vit, lui, dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien. Les autres villes ouvrières de la vallée sont touchées à l'avenant. À Nouzonville, on a compté jusqu'à 40 usines métallurgiques, des fonderies, des usines d'estampage et des ateliers de sous-traitants. Les friches industrielles dressent aujourd'hui un décor sinistre, symbole de mort pour les Nouzonnais. Les ouvriers survivent près des bâtiments en déshérence. Les cours d'usine sont envahis par les ronces qui engloutissent les vestiges du travail d'autrefois et font de la vallée de la Meuse en crise un univers de désespoir. Dès l'arrivée à Nouzonville, on est frappé par l'immensité de la carcasse fantomatique de ce qui fut l'usine Thom & Krombach, cette fonderie d'acier, productrice d'essieux pour les véhicules automobiles et les trains, a fermé il y a plus de 15 ans, après avoir été rachetée par un groupe italien qui a pillé les savoir-faire et les actifs de l'entreprise, installée dans une boucle de la Meuse, entre le fleuve et la voie ferrée. Elle n'est éloignée que de 200 mètres de l'usine d'une autre branche de la famille Thomé, les Génaux. L'usine d'estampage Thomé-Génaux, où la fabrication des pièces se faisait au marteau-pilon en écrasant le métal au lieu de le mouler, a fermé, elle, en 2006, mise à sac par un fonds d'investissement américain venu de Californie. Si la mémoire familiale est parfois défaillante parmi les ouvriers, elle est relayée par un savoir commun des origines enracinées dans une vallée où des générations d'ancêtres ont travaillé le fer. Cette mémoire collective qui pouvait s'appuyer sur l'omniprésence de l'usine est mise à mal. On y est entré dès l'âge de 14 ans pour y retrouver dans l'atelier son père ou un oncle qui y travaillait déjà. On était fiers d'être fondeur ou mouleur. Tel ouvrier a pu vivre son entrée en usine et sa carrière de mouleur comme le résultat d'une vocation. « Moi, mon intérêt, a-t-il dit au cours d'un entretien, c'était « je voulais aller mouler ». Mon père moulait, mon grand-père moulait, la famille parlait de moulage. Moi, mouleur, c'était mon idéal. Les ouvriers ont perdu non seulement leur travail, leur fierté de l'exercer et leur identité sociale, mais ils doivent poursuivre leur vie jusqu'à la mort dans ce décor sinistré qui leur dit et redit du matin au soir qu'ils n'ont guère plus de valeur que les cafus, les pièces moulées ratées que l'on mettait au rebut.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout de bonheur.
Ah, 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 ah oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La ira, la ira, yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour
pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend. Nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
La ira, la ira, yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour. On est heureux comme des fous.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Oui, c'est ça.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah, 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 ah oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Light it up, light it up, yeah.
Mon patron est plus grand que les tiens.
Light it up, light it up. Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, ouais,
pas vrai. Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour.
Les nouveaux pirates à l'œuvre. La famille Durie, qui a acheté au début du XXe siècle les usines Thomé-Génaud, habite une belle demeure entourée d'un parc, rue Jean Jaurès, à Nouzonville, à quelques 500 mètres de ce qu'il reste de leurs anciennes usines. François Durie, le directeur général jusqu'en 2004, se retrouve chaque jour confronté au désastre d'une entreprise familiale ruinée par un fonds d'investissement américain dont l'intervention a abouti à la mise au chômage de près de 370 ouvriers. Le bouleversement personnel que vit ce catholique aux idées politiques situées au centre est renforcé par les ruines de ce qui a constitué le ciment familial. Cette friche industrielle persiste comme un remords qui le ronge toujours autant, 7 ans après la mise en liquidation judiciaire de son entreprise. Elle lui rappelle, nous a-t-on dit, qu'une entreprise à taille humaine, comme l'a été Thomé-Génaud, a créé de fait une certaine solidarité entre patrons et ouvriers. Pas seulement sur des enjeux professionnels, bien qu'il y ait un grand respect du travail, mais aussi à travers un attachement à un terroir et à une commune. Si François Durie et sa famille ont accepté de vendre leur usine au fonds américain Catalina, c'est bien parce que les banques ont refusé, à partir du début des années 2000, de leur prêter les liquidités nécessaires aux investissements qui auraient permis de maintenir l'usine en vie, voire de la développer. François Durie était alors le directeur général de l'entreprise, dont sa mère était la principale actionnaire. Nous avions, il est vrai, des problèmes de financement qui auraient exigé que l'on s'associe avec un autre groupe, mais ma mère y était farouchement opposée. De sorte que les 6 banques qui prêtaient à cette entreprise, entre 4 et 5 millions d'euros chaque année, à un taux relativement élevé, entre 7 et 8%, sous la forme d'un crédit blanc, c'est-à-dire d'un découvert, ont exigé en septembre 2003 le remboursement dans les 15 jours de 5 millions d'euros. Ma mère, poursuit François Durie, était prête à hypothéquer tous ses avoirs et ses biens pour avoir du temps pour trouver un repreneur. Mais le tribunal de commerce, dont certains membres ne nous voulaient pas forcément du bien, a marqué son désaccord en nous mettant en redressement judiciaire. Alors il a fallu faire vite. Et le fait que des cadres de Ford Visteon, un de nos principaux donneurs d'ordre, nous ait recommandé Greg Willis, cet Américain qui avait été pendant 20 ans le directeur financier de Toyota aux États-Unis, a retenu notre attention. C'est ainsi que ma mère a négocié la vente de Thomé-Génaud au groupe Catalina pour 1 euro symbolique, à la condition toutefois que ses fils voient leur rémunération maintenue et avec l'espoir que je puisse continuer à être utile dans les fonctions de direction à un repreneur dont elle ne pouvait pas penser que ce serait un escroc. Les patrons de Catalina Grand Seigneur réunirent tout le monde, y compris les employés et les ouvriers de Tom et Génaud, à la salle des fêtes de Nouzonville. Discours et champagne pour tous. Le drame était évité, la vie allait pouvoir continuer. Greg Willis et les principaux dirigeants de Catalina furent invités chez les Durie. Nous avons été séduits, raconte François Durie. On a abordé le problème du Vietnam et Greg Willis en a eu les larmes aux yeux. On a appris malheureusement à nos dépens que c'était un grand manipulateur et simulateur. La suite de l'histoire est celle d'un système économique et politique qui a permis à des patrons voyous de venir piller depuis les États-Unis une entreprise plus que centenaire des Ardennes. Catalina s'est approprié les savoir-faire des travailleurs et les technologies mises au point par les ingénieurs de l'entreprise qui fabriquaient des pôles d'alternateurs pour voitures. Cette usine était mondialement connue pour cette production, une pièce soumise à de fortes contraintes qui, en tournant en très haute vitesse, fournit l'électricité dans les véhicules automobiles. Renault et Ford ont été parmi les clients de cette usine. Les savoir-faire furent donc étudiés, copiés et transférés aux États-Unis et dans une usine du groupe Catalina ouverte au Mexique. Le fonds américain a vendu tous les actifs immobiliers et mis au chômage les centaines d'ouvriers du jour au lendemain. Puis ses responsables ont fui aux États-Unis. « Je m'en veux », reconnaît François Durie. « Nous aurions dû faire des vérifications, mais j'étais à mille lieues de penser qu'on puisse confier le sort de 400 personnes à une coquille vide. » En effet, cette vente s'est faite avec l'accord tacite d'institutions comme le tribunal de commerce de Charleville-Mézières, qui aurait dû intervenir au moment de la cession de l'entreprise, puisqu'il manquait les garanties financières dans le dossier de reprise. Ensuite, raconte François Durie, j'ai eu un emploi de haut cadre sous les ordres de Greg Willis et de ses collaborateurs, mais je n'avais plus aucun pouvoir. C'était pourtant l'entreprise de ma famille, mais j'étais dans un placard, impuissant, alors que je commençais à deviner le poteau rose. Les deux patrons de Catalina, Greg Willis et Catherine Ziegfeld, ont été condamnés le 8 septembre 2009 pour recel et banqueroute par détournement et abus de biens sociaux à 5 ans de prison ferme et à 20 millions d'euros de dommages et intérêts par le tribunal correctionnel de Reims. Ils sont depuis sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Selon le procureur de la République du parquet de Reims, nous avons toujours su où se trouvait Greg Willis. Il ne se cache pas, il se trouve à Los Angeles. La difficulté pour nous réside dans son extradition. En février 2010, nous avons transmis aux autorités américaines une demande d'extradition, tout comme nous l'avons fait pour son associée Catherine Ziegfeld. Juridiquement, nous sommes allés jusqu'au bout de ce que nous pouvions faire. Le mandat est diffusé par Interpol, ce qui veut dire qu'ils peuvent être arrêtés à tout moment. Mais à ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse des autorités américaines.
In life for free, but you can give them to the birds and bees. I want money, that's what I want, that's what I want, that's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. Money. Just give.
me retirera pas de la tête que le boulot, c'est une habitude. T'as la preuve. Ils l'ont bien prise, eux.
C'est comme si tu disais que la vérole est une habitude sous prétexte qu'il y en a qui l'attrapent.
Oh, je te cause ce boulot, tu prépares maladie, tu comprends? Par ça, t'es de bonne foi.
Permets-moi de te dire que si moi, je suis de mauvaise foi, quand toi, tu viens défendre le boulot, t'envoies un peu loin le paradoxe.
Je préfère pas te répondre. Tu me fatigues.
C'est le mot paradoxe qui t'emmerde. Parce que tu sais pas ce que ça veut dire, là, voilà la vérité.
La question à me regarder comme ça.
Du rouge dès le matin, je sais pas comment que tu peux supporter ça.
Tiens, t'as peut-être mené que t'as la grenadine, toi.
Au muscadet, monsieur.
Il n'y en a plus de vrai.
Good. Alors.
Où tu trouves?
Chez Baladin, rue de la Clé, 160 balles.
Bon, bah, c'est vrai, là, cette connerie. Ça y est, il va encore flotter. Ah, il y avait longtemps. Au moins, t'as l'abri là-bas.
Bah, qu'est-ce que t'attends pour faire comme eux, pour t'abriter? T'as qu'à acheter les quotidiens du soir, c'est plein de demandes. Offre d'emploi, qu'ils appellent ça, leur piège à bagnard. C'est une bonne lecture.
Où tu vas?
Dormir. Je finirai de déjeuner chez moi.
Aulnay-sous-Bois, le 13 septembre 2012. Nous montons dans l'autobus pour Aulnay Usine PSA. Objectif, faire quelques entretiens à la sortie de l'équipe du matin à 14h30. Tout au long du chemin, d'autres arrêts permettent à des ouvriers de l'équipe de l'après-midi de monter, dont un grand Africain, coiffé d'un bonnet blanc, qui déclare au chauffeur « Je suis PSA ». Déclaration d'identité superflue, monte qui veut, dont nous, qui ne ressemblons que de très loin aux travailleurs de PSA. Immense parking devant la porte de l'usine, ou plutôt du parc industriel, abrité derrière une clôture tout à fait dissuasive. On ne peut franchir les portes à tourniquet, dûment surveillées par des agents de sécurité, qu'en usant d'un badge électronique. Des militants du Parti ouvrier indépendant distribuent des tracts aux ouvriers du matin et à ceux du soir, qui se croisent en se saluant. Beaucoup d'hommes, de migrants, de première ou deuxième génération, maghrébins ou africains. Malgré l'espace et les pelouses, tout a un air de prison un jour de visite. Il se dégage de l'ensemble une sensation de contrainte, d'univers hostile, violent, accentué par le passage incessant des avions atterrissant ou décollant de Roissy. Les ouvriers pressés, le visage fermé, se hâtent et ne paraissent guère disponibles pour un échange. La présence de deux journalistes et de deux sociologues ne les étonne pas le moins du monde, mais plutôt les indiffère, ou même a le tort de leur rappeler la menace de licenciement qui pèse sur eux. Et c'est sans compter le souci de ne pas se mettre en retard pour prendre son poste ou l'un des bus qui attendent sur le parking. Peut-être y a-t-il aussi la crainte de se faire remarquer par un membre de la sécurité. Il sera possible de mener quelques entretiens avec ceux qui, la journée terminée, regagnent leur véhicule, ce qui les fait le plus souffrir à cette étape du processus de réduction des effectifs. C'est l'anxiété devant l'avenir. On ne sait pas où on va. C'est l'incertitude. On se sent abandonné et déjà très déçu par le Parti Socialiste. Notre dignité est mise à mal. On se sent piétiné d'avoir ainsi été mis devant le fait accompli. Pire, on ne sait pas encore qui sera victime du plan social et qui sera épargné. La vie quotidienne risque d'être bouleversée par l'impossibilité de continuer à rembourser les crédits pour le logement, la voiture, la télé. Sans compter la longueur des temps de transport pour ceux qui échapperont au chômage à condition d'accepter un poste sur un autre site de PSA à des kilomètres d'Aulnay. C'est notre gagne-pain. Si on nous le retire, qu'est-ce qu'on va devenir? D'autant que beaucoup sont logés dans la cité des 3000 à Aulnay, loin du centre de la ville, mais à proximité de PSA. Les plus sereins sont encore les intérimaires, paradoxalement sous CDI, avec une société de travail temporaire. Ils ne seront donc pas mis au chômage, pouvant espérer un nouveau poste dans une autre entreprise. Mais la société d'intérim, tiendra-t-elle le coup? L'incertitude ne fait que se déplacer.
Silver dollar, bright silver dollar, changing hands, endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, changing hands. is drinking, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's bullet, and lost in the blood-red dust. One silver dollar, one silver dollar, changing hands, changing hands. Love is a shining dollar, bright as a church bell's chime, gambled and spent and wasted, and lost in the dust of time. Changing hearts, changing lives, changing hands.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être... qui peut être très important, parce que moi je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. C'est, elle vous protège. Si il y a du danger, et ben ouais, ben moi je suis avec une hyène. Alors là, évidemment.
Pour son Noël 2012, Bernard Tapie s'est offert la Provence, quotidien du midi. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, le nouveau patron de presse reprend pied à Marseille, dans l'objectif supposé d'une candidature en 2014 au poste de maire de la seconde ville de France. Il y fut le roi du football, il pourrait bien être prince de la Canebière. C'est donc tout naturellement que Bernard Tapie a demandé à la municipalité de Marseille une place dans le vieux port pour y amarrer son yacht. Celui-ci, délicieusement rebaptisé Reborn, c'est-à-dire Renaissance, mesure 70 mètres de long et occupe le 97e rang du palmarès mondial des yachts de luxe. C'est certainement pour gagner quelques places dans ce classement que Bernard Tapie l'a fait rallonger de 5 mètres. Acheté 60 millions d'euros en 2010, ce palace des mers a été rénové avec une piste d'hélicoptère, une piscine à contre-courant, un jardin tropical et 8 cabines. Il peut être loué avec ses 25 membres d'équipage, 600 000 euros la semaine et accueillir 12 hôtes. Bernard Tapie a pu acheter ce magnifique bateau grâce à la générosité involontaire des contribuables. 403 millions lui ont été offerts par un tribunal arbitral, donc hors du cadre juridique stricto sensu, en 2008. Ce joli chèque lui a été remis en dédommagement des pertes prétendument subies en février 1993 à l'occasion de la vente de l'entreprise Adidas par le Crédit Lyonnais. Un pactole qui a contribué au renouveau de ce personnage pour lequel il n'y a pas de petit profit. Le Reborn navigue en effet sous pavillon de complaisance, localisé dans une île particulièrement recherchée pour cet usage, Man, située entre l'Écosse et l'Irlande. Le reste du magot perçu serait mis à l'abri dans une société holding, le groupe Bernard Tapie, GBT, domicilié en Belgique, où la fiscalité est tout aussi aimable que les taxes maritimes de l'île de Man. Bernard Tapie, le faiseur de fric sous François Mitterrand, qui l'a fait ministre de la ville, a pu rebondir après un passage à la prison de la santé grâce à son engagement auprès de Nicolas Sarkozy. Mais le vent tourne. Le 28 juin 2013, Bernard Tapie a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée dans l'enquête sur l'arbitrage de 2008. Le libéralisme économique, qui ne doit connaître ni contraintes, ni frontières, ni lois, fait bon ménage avec le libéralisme psychique qui ne s'embarrasse plus de culpabilité, mais affiche le cynisme et la décomplexion vis-à-vis des valeurs morales et de l'argent.
La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien ?
200 000 lucas, monseigneur.
Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus.
Oui, mais la récolte avait été très bonne.
Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Les impôts, Tout ça, c'est pour le roi.
Mais dans Salust, nos gens sont terriblement pauvres et...
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby. Then cool, cold in fields of snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming.
Promenade parisienne dans la finance internationale. Les alentours du parc Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris, offrent une concentration tout à fait exceptionnelle d'hôtels particuliers et d'immeubles haussmanniens consacrés à la mondialisation financière. Si les adresses sont sur Internet, les deux banques d'affaires des Rothschild ont préféré la discrétion et n'ont même pas droit à une plaque de marbre au 23 bis avenue de Messine, pour signaler la compagnie financière Edmond de Rothschild, ni au 29 pour la banque d'affaires dirigée en voisin par David de Rothschild. Ce sont des banques mondialisées depuis le 19e siècle, dont les relations avec les pouvoirs politiques en place ont toujours été intimes. Georges Pompidou en fut un dirigeant de 1950 à 1962. L'autre banque d'affaires, qui conseille l'actuel ministère de l'économie et des finances socialistes, la banque Lazare, est située au 25 rue de Courcelles et au 121 boulevard Haussmann. Les banques américaines, qui n'hésitent pas à intervenir à tous les niveaux de la construction d'une Europe essentiellement dévouée à la finance internationale et donc à sa locomotive anglo-saxonne, ont également choisi le voisinage de ce très beau parc du Second Empire pour accueillir collaborateurs et visiteurs, tous ces hommes habillés dans leur uniforme de classe, costumes sombres, bien ajustés, chemises blanches et cravates. L'hôtel particulier de Morgan Stanley en impose, au 61 rue de Monceau, avec ses colonnades impressionnantes qui font songer à Wall Street, autre temple de l'argent. Majesté et sacrée que répète l'ampleur du bâtiment de sa consœur, Goldman Sachs, aux 2 rue de Tannes, dans le 17e arrondissement, juste en face du pavillon d'octroi de Ledoux. L'actuel président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a été le vice-président pour l'Europe de cette banque américaine entre 2002 et 2005. L'immeuble en pierre de taille ouvragée impressionne et c'est avec une timidité amusée que le gardien nous confirmera qu'il s'agit bien des bureaux de Goldman Sachs. Mais que serait le parc Monceau à l'heure de la mondialisation financiarisée sans les agences de notation ? Fitch Ratings France, troisième agence de notation mondiale, propriété du français Marc Ladret de Lacharrière, se trouve juste en face de la banque américaine Morgan Stanley, au 60 rue de Monceau. Standard & Poor's est noyé dans l'invisibilité d'une sorte de centre commercial lié aux affaires, au 23 rue Balzac, à deux pas de l'Arc de Triomphe. L'autre agence de notation américaine, Moody's, a choisi le 96 boulevard Haussmann pour baisser les évaluations des dettes souveraines afin que les peuples européens se serrent chaque jour davantage la ceinture pour le bonheur des spéculateurs.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard? Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi, j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. Flâner sur les grands boulevards, l'espoir d'été quand tout le monde vient se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur des grands boulevards.
À Londres, les traders succèdent aux dockers. Un métro automatique sans chauffeur permet de relier la station Bank, la bien nommée, qui dessert le cœur de la City à Canary Wharf, second pôle financier de Londres, créé à partir de 87. Une forêt de gratte-ciel y héberge les plus grandes banques du monde, JP Morgan, HSBC ou le Crédit Suisse. L'argent a investi dans un méandre de la Tamise, une ancienne zone portuaire dont les activités ont cessé en 70. La grande famille de la finance, avec ses 44 500 professionnels de la banque, des cabinets juridiques et des agences de notation mondiale, a pris ses racines sur un territoire biscornu, marqué encore ici et là par les jetées et les points d'ancrage des bateaux qui faisaient autrefois le commerce des épices avec l'Inde. Ce fut un temps le plus grand port du monde, mais la mondialisation, auquel il devait sa naissance et à laquelle il contribua, fut aussi à l'origine de sa perte. Comme pour le quartier de la Défense à l'ouest de Paris, les bureaux et les salles de réunion des conseils d'administration ont supplanté aux Docklands les grues, les ateliers, les entrepôts et les logements ouvriers. L'espace des grandes cités des vieux pays industriels traduit dans son évolution le dépérissement de la production de biens matériels au profit de la spéculation financière. Dans ce vieux quartier de Londres, les centres commerciaux offrent le spectacle, notamment à l'heure du déjeuner, du va-et-vient précipité de traders en bras de chemise malgré le froid de ce début de novembre, ou en costumes sombres et élégantes chaussures de cuir, à la recherche du sandwich qui leur permettra de retourner rapidement jouer avec l'argent, plus que jamais virtuel. La plupart arborent une petite fleur rouge à la boutonnière, attestant de leur générosité envers les militaires anglais revenus blessés de la guerre en Afghanistan, pour lesquels une collecte est en cours. Cette fleur rouge accentue l'uniformisation de ce milieu, mais elle rappelle que tout ne va pas si bien et que le monde est en surchauffe. À quelques centaines de mètres, le musée des Docklands est installé dans un bâtiment qui servait autrefois à entreposer les épices. De très beaux objets liés au commerce maritime et à la construction des bateaux, des documentaires et de nombreuses photos racontent l'histoire de l'Empire britannique et de ses rapports sociaux de domination depuis l'esclavage jusqu'à la vie dure des dockers et de leurs familles. Peut-on imaginer ce que sera dans un siècle un musée de la finance ? Des ordinateurs, des cravates, des costumes sombres, des billets de banque, des chiffres sur l'emploi et les bénéfices, des maquettes de gratte-ciel, tous plus ou moins semblables. La virtualisation de la finance ne pourra jamais rivaliser avec la richesse de l'économie réelle dans sa transmission aux générations futures. Il n'en demeure pas moins que du point de vue des dockers et de la classe ouvrière anglaise, il s'agit d'une forme de violence que de voir disparaître ainsi ce qui a fait leur vie et leur valeur. Les vieilles nations industrielles s'efface au profit d'une mondialisation néolibérale qui utilise un langage fait de chiffres et d'expertise, assurant la soumission aux exigences du nouveau pouvoir de l'argent comme unique fin en soi de notre passage éphémère sur la Terre.
Ha ha ha! saves his garment. The sun's zooming in, engine's stopping it. The wheat is cooking, a nuclear arrow. But I have no fear, 'cause London is drowning out. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
Avec la phase du néolibéralisme, la classe dominante tente par tous les moyens idéologique, politique et médiatique, de transformer en ennemis les agents sociaux les plus pauvres, les plus déstabilisés par la précarisation du travail. Pas en adversaire de classe dans un combat au grand jour, comme dans la phase paternaliste du capitalisme industriel des 19e et 18e siècles, mais en surnuméraire, parasite néfaste au fonctionnement de la belle machine capitaliste. Quoi qu'il fasse, quelle que soit leur porte-parole, les dominés ont tort. Les organisations syndicales et politiques, les militants qui dénoncent les inégalités, sont systématiquement taxés de populisme. Il s'agit pour les dominants de marquer leur sécession en stigmatisant le peuple, devenu incompétent au stade du capitalisme mondialisé et censé ne plus pouvoir prétendre à la démocratie et à la souveraineté. Ce discours permet aux riches, dont les revenus et les patrimoines se comptent en millions d'euros, aux politiques qui font tapis rouge aux spéculateurs, de vivre leur forfaiture en toute bonne conscience. Cette fabrication de l'ennemi s'inscrit dans la guerre psychologique que doivent mener les puissants pour gagner la guerre des classes. Celle-ci doit apparaître comme légitime et obtenir le label « démocratique », derrière lequel toutes les violences et les illégalités avance masquée. La fabrication d'un ennemi peut cimenter la collectivité, peut être une échappatoire pour une autorité en difficulté sur le plan intérieur. C'est ainsi qu'au cœur même des classes populaires, la perversion idéologique a érigé l'immigré en bouc émissaire, auquel est attribuée la responsabilité de la baisse du pouvoir d'achat, de la relégation dans l'espace géographique, de la dégradation des services publics, des protections sociales et de l'emploi. L'ennemi est un choix, pas une donnée. Il s'agit de faire perdre à l'ennemi de classe son identité sociale pour qu'il devienne un fraudeur ou un paresseux, voire un terroriste ou un rouge. On lit à longueur d'éditoriaux des dénonciations des dérives du populisme. Que ne déploie-t-on pas la même énergie à épingler son double bien plus actif et bien plus installé, le bourgeoisisme du Figaro, le richissisme des chroniqueurs de la bourse ou l'oligarchisme du who's who. Avec le luxe, l'élégance, les journaux people, les exhibitions caritatives et les expositions d'œuvres d'art, les riches se construisent dans une mascarade sociale en bienfaiteurs de l'humanité qu'il convient de flatter alors qu'ils n'ont bien souvent que le mérite de leur naissance. Le néologisme bourgeoisisme est adapté à la guerre idéologique qui ne cesse de dénoncer avec le populisme un peuple qui serait flatté par certains politiciens alors qu'il ne mériterait pas tant d'honneur. Mais que dire des flagorneries dithyrambiques qui encensent les riches dont on se garde bien de dévoiler l'origine de la fortune. L'argent occupant désormais le devant de la scène, il est compréhensible que les sociologues spécialistes de la classe dominante utilisent le terme « riche » dans une sorte de renvoi d'ascenseur, remettant à leur place ceux qui, en dernière analyse, doivent l'essentiel de leur position au travail des autres. La réflexion sur les mots est indispensable pour contrer la guerre idéologique qui fait rage au détriment des peuples. Notre démocratie est tenue et contrôlée par une aristocratie de l'argent, par des bourgeois et des nobles, maintenant réconciliés, qui pratiquent un bourgeoisisme systématique. ils se persuadent mutuellement de leur immense qualité, ne cessent de mettre en évidence leur excellente éducation, se montrent même courtois envers le personnel. Ils se congratulent et se félicitent mutuellement d'être comme ils sont. Une nouvelle aristocratie s'est constituée à partir de l'emballement de la finance. Les titres de noblesse assuraient autrefois la continuité de la caste. Aujourd'hui, les fortunes visibles et les magots mis à l'abri dans les paradis fiscaux assurent la succession au sommet des générations dynastiques. Cette noblesse oligarchique a pris le contrôle de l'essentiel des forces politiques, à gauche comme à droite. La pensée unique triomphe au-delà des coquetteries pour amuser la galerie et justifier la coexistence de partis d'accord sur l'essentiel, le marché, la libre circulation des capitaux, le moins d'État, le chacun pour soi. Le tableau est incroyablement archaïque, renvoyant au régime des ordres, voire des castes. Le tiers-État comprenait la bourgeoisie naissante. Aujourd'hui, c'est aux intouchables que les plus démunis font penser. Pourtant, la machine infernale du néolibéralisme connaît les premiers soubresauts de la panne fatale. Les crises se succèdent, le chômage augmente, le bateau pris dans la tempête voit ses structures gémir sous les coups des scandales, de la mise au grand jour de la malhonnêteté intrinsèque, de la pompe à profit du capitalisme. En démontant les mécanismes de la violence des riches à l'heure de leur mondialisation et en dévoilant leur arbitraire, leurs subterfuges économiques, politiques et idéologiques, nous avons voulu alerter sur la force et la détermination d'une classe sociale mobilisée pour la défense de ses intérêts, quitte à mettre en péril les autres classes, voire la planète elle-même. L'idée d'un changement radical peut faire peur, mais à tort. Tout au contraire, puisque le chaos c'est maintenant et qu'il s'est installé dans une spirale infernale, il n'y a pas d'autre solution que de rompre avec un capitalisme devenu irresponsable, l'appât du gain immédiat faisant perdre le sens du possible et de la solidarité. Il faut faire rendre raison à ce système économico-politique qui a fait son temps. Sa perpétuation ne pourrait déboucher que sur une déflagration mondiale où le sens de l'intérêt collectif laisserait la place à une régression atroce par rapport aux acquis de l'époque des Lumières, avec l'obscurité de la nuit réactionnaire pour quelques siècles.
You burn the streets, you burn your houses with anxiety, with anxiety. Well, I-
jamais la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, Français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents.
Discours de réception du prix Nobel de littérature le 10 décembre 1957. En recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique, un arrêt qui le portait d'un coup, seul et réduit à lui-même, au centre d'une lumière crue? De quel cœur aussi pouvait-il recevoir cet honneur, à l'heure où en Europe, d'autres écrivains, parmi les plus grands, sont réduits au silence, et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant? J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu, en somme, me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu dans les circonstances les plus contraires tout au long de ma vie, l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez seulement que dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise, aussi simplement que je le pourrais, quelle est cette idée. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis, au niveau de tous. L'art n'est pas à mes vœux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'ils consentent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois du moins qu'il y parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le faire retentir par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation. Mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où il règne, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Pendant plus de 20 ans d'une histoire démentielle, perdue, sans secours, comme tous les hommes de mon âge dans les convulsions du temps, j'ai été soutenue ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur parce que cet acte obligeait et obligeait à ne pas écrire seulement. Il m'obligeait particulièrement à porter, tel que j'étais et selon mes forces, avec tous ceux qui vivaient la même histoire, le malheur et l'espérance que nous partagions. Ces hommes, nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu 20 ans au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires, ont été confrontés ensuite, pour parfaire leur éducation, à la guerre d'Espagne, à la Seconde Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Personne, je suppose, ne peut leur demander d'être optimiste. Et je suis même d'avis que nous devons comprendre sans cesser de lutter contre eux l'erreur de ceux qui, dans une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste que la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il leur a fallu se forger un art de vivre partant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite à visage découvert contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d'établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et à l'occasion sait mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. C'est sur elle, en tout cas, que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Du même coup, après avoir dit la noblesse du métier d'écrire, j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place, n'ayant d'autre titre que ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte, véritable mais entêté, injuste et passionné de justice, construisant son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous, toujours partagé entre la douleur et la beauté, et voué enfin à tirer de son être double les créations qu'il essaye obstinément d'édifier dans le mouvement destructeur de l'histoire. Qui, après cela, pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales? La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Quel écrivain, dès lors, oserait, dans la bonne conscience, se faire prêcheur de vertu? Quant à moi, il me faut dire une fois de plus que je ne suis rien de tout cela. Je n'ai jamais su, je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir, aveuglément, auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir ou le retour de bref et libre bonheur. Ramenée ainsi à ce que je suis réellement, à mes limites, à mes dettes, comme à ma foi difficile, je me sens plus libre de vous montrer, pour finir, l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder, plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n'ont reçu aucun privilège, mais ont connu au contraire malheur et persécution. Il me restera alors à vous en remercier du fond du cœur et à vous faire publiquement en témoignage personnel de gratitude, la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour, se fait à lui-même, dans le silence.
Rose, elle avait 16 ans, c'était une gamine. Elle aimait s'amuser, n'y voyait pas de mal. Ses parents la gardaient comme une perle fine. Elle passait la fenêtre et s'en allait au bal. Elle voulait s'amuser, c'est vrai, je le répète. Elle aimait les garçons, surtout pour en rêver. Elle ne savait rien des envers de la fête. Elle couchait parfois, mais pour se réchauffer. Elle ne savait rien, j'en suis presque certaine, car sa mère disait qu'elle avait bien le temps. Aussi, ce fut après bon nombre de semaines qu'elle sut que peut-être elle portait un enfant. Elle n'y crut pas trop, s'empêcha de croire. Un jour, elle ne put le cacher plus longtemps. Son père la chassa comme dans les histoires, et le garçon se moqua d'elle, évidemment. Aurait bien voulu ne pas garder la chose qu'elle désavouait de tout son corps surpris, mais il était trop tard et la métamorphose continuait sans elle et l'effrayait aussi. Quand elle se débattit pour le jeter au monde, elle dit que surtout elle n'en voulait pas, mais on lui mit au bras une poupée si blonde que toute son enfance au cœur lui remonta. Elle essaya de vivre et n'y fut pas habile. La misère est plus dure à qui ne comprend rien. Elle était isolée dans le désert des villes, et personne jamais ne lui tendit la main. Elle ne savait pas, et vous devez me croire, qu'un enfant ça diffère un peu d'une poupée. Et quand elle sortait, elle avait en mémoire qu'il était dans sa boîte et qu'elle l'avait rangé. Un jour qu'elle avait plus fort que d'habitude joué à la maman et qu'il ne bougeait plus, elle a vu plus de gens que dans sa solitude. Quand elle avait besoin, il n'en était venu. Vous allez la juger du haut de votre tête, monsieur le président et messieurs de la cour. N'oubliez pas surtout qu'avec nous tous vous êtes coupables de silence et de manque d'amour. Le malheur, voyez-vous, est une autre planète, et nous devrions bien la découvrir un jour.
Chronique d'un infanticide annoncé. Annonce du Figaro. Alloué chambre de bonne, 10 mètres carrés avec douche et WC, 7e étage, 760 euros charges incluses, 16e arrondissement, ni bico, ni gaucho, ni fêtard, ni paillard, ni artiste. Mercredi 30 janvier. J'ai mis l'annonce hier. Le téléphone a sonné toute la journée. C'est sûr qu'à ce prix-là, dans le quartier. Mais je veux pouvoir bien choisir. J'habite juste en dessous, je tiens à ma tranquillité. Le genre de bamboula descendu de son baobab qui fait venir sa mouquère. Tous les gosses qu'il va lui faire, mes pauvres oreilles. Oh, puis, pas de musicien non plus. Un type qui vous arrache les tympans avec sa guitare électrique. Et puis, pas de gauchiste. Non, mais vous imaginez l'effet dans l'immeuble. On pourrait trouver des tracts dans l'escalier. Et pas de gars qui s'adonne à la boisson, non. Non, il faut trouver quelqu'un de correct. Bien propre sur lui, poli, pas bronzé, discret. Qui paie son loyer, surtout. Donc pas de poète maudit non plus.
Vendredi 1er février. Eh bien, j'en ai vu aujourd'hui, de toutes les couleurs. Pourtant, je l'ai bien précisé à l'agence. Je ne veux qu'une seule couleur, blanc, très blanc. Il y a bien une petite qui est arrivée en fin de journée, accompagnée d'une assistante sociale. Une petite jeunette, toute blonde, délicate comme une rose, l'air un peu perdu, mais bien polie, bien gentille. L'assistante sociale m'a assuré qu'elle aurait des aides et que son loyer serait payé. Elle emménage la semaine prochaine. Lundi 4 février. Oh, elle m'a l'air bien, cette petite. Elle n'a pas déménagé grand-chose. Un lit en 80 pour elle. Une petite table, deux chaises, une toute petite armoire. Mon mari m'a dit aussi qu'elle avait pris un petit berceau. Sûrement pour une poupée. Une petite qui joue encore à la poupée. Le soir, elle ne fait pas de bruit. Il paraît qu'elle est encore à l'école. C'est normal à son âge. Parfois, Édouard me dit que ça l'inquiète, une petite comme ça, si jeune, qui ne vit pas chez ses parents. Oh, cette petite, elle est indiscrète. On ne la voit même pas passer. On entend son pas de souris parfois, mais c'est tout. 6 mois plus tard, on n'a pas entendu les pas de souris depuis plusieurs jours. C'est bizarre. 3 jours plus tard, elle est revenue avec un môme. On va attaquer l'assistante sociale. Elle ne nous a pas dit que cette traînée avait un polichinelle dans le tiroir. Il braille, ce môme. On va lui envoyer les gendarmes pour tapage nocturne. Hier, je l'ai croisée dans l'escalier. J'étais indignée. En plus d'être une traînée, elle a un môme qui hurle et dérange tout l'immeuble. Comme je suis pharmacienne, je lui ai conseillé de lui donner 1/8 de l'exomil pour que l'on passe à nouveau des nuits tranquilles. J'ai même poussé la bonté jusqu'à lui en donner 3 boîtes. Depuis, ça va, on dort mieux. 1 semaine plus tard. On ne dort à nouveau plus. Le braillard refait du boucan toutes les nuits. On est monté chez la petite pour l'engueuler. Elle nous a dit que l'assistante sociale était revenue et qu'elle lui avait formellement interdit de donner du Lexomil au bébé. Vous vous rendez compte? Tout l'immeuble va devenir insomniaque à cause d'une assistante sociale. 3 jours plus tard, je craque. Hier, on a été la voir en délégation, cette merdeuse, pour lui dire qu'il fallait qu'elle aille se loger ailleurs avec son môme. Le lendemain, on a enfin passé une nuit tranquille. Elle a dû reprendre le Lexomil. Le surlendemain, vous ne devinerez jamais. La police est montée au 7e et la petite est descendue menottée et encore plus pâle que le jour où je l'ai rencontrée. Je savais que c'était une traînée, mais dire qu'on a logé une criminelle. Elle a bien trompé son monde, cette petite mijaurée, avec ses yeux langoureux et son air fragile. Ah, cette salope d'assistante sociale va nous le payer. Il va falloir trouver un autre locataire maintenant. Annonce du Figaro. Alloué, chambre de bonne, 10 mètres carrés avec douche et WC, 7e étage, 16e arrondissement, 800 €, ni bico, ni gaucho, ni fêtard, ni paillard, ni artiste, ni jeune fille triste.
Assise dans un bistrot devant un tilleul menthe, y a quelqu'un qui me regarde, mais je sais pas qui c'est. Je vois que vous buvez pas trop, mais vous êtes bien charmante. Me dit un mec viril d'un ton très satisfait, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? Le patron du café, très fier de sa tirade, me laissant la béate devant tant de génie, repart derrière son bar se servir une rasade, cherchant à replacer un autre trait d'esprit. Mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? Pour payer l'addition, j'ai sorti le portefeuille. Vous risquez pas de le perdre, dit-il d'un air sournois. Il est en plastique blanc, genre un peu tape à l'œil. Non mais de quoi je me mêle, que je réponds tout bas. Mais pourquoi il m'a dit ça? De sang avec un regard noir. Vous avez pas de monnaie, dit-il d'un ton cinglant. Mon sang ne fait qu'un tour de moi jusqu'au comptoir. Je lui réponds froidement, non mais c'est moi le client. Pourquoi je lui ai dit ça? Dites-moi pourquoi je lui ai dit ça. Mais pourquoi je lui ai dit ça? N'importe quoi. Et puis son petit chien s'est mis à aboyer. Tu pourrais te la boucler, espèce de sale clébard. J'avais pensé trop fort, ça m'a échappé. Du coup Bernard, qui était au bar, avait l'air moins peinard. Mais pourquoi j'ai lâché ça? Dites-moi pourquoi j'ai lâché ça. Mais pourquoi j'ai lâché ça? Parce qu'il m'avait dit ça, l'autre là aussi là. Au départ j'étais venu là pour être tranquille, me vider l'esprit de tous mes petits soucis, oublier un peu le bruit sourd de la ville. Et ben j'ai l'impression d'avoir la tête farcie. Mais pourquoi je suis venu ici? Dites-moi pourquoi je suis venu ici. Mais pourquoi je suis venu ici? Pourquoi je suis venu ici?
Tout feu, tout flemme.
À quoi ça rime de...
Tout feu, tout flemme. Il était pompier de son état, avait fait ses classes à Béziers, brûlé de Saint-Stall et à Bastia pour y vivre de son métier.
Il avait le cœur volcanique et pour la sieste un fort penchant louait le changement climatique en débarquant du continent. La flamme est l'avenir de l'homme et fier du devoir accompli, il répétait entre deux sommes « Notre époque est aux incendies ». Au feu, c'était lui la mascotte, il tenait fermement sa lance. Placide et bien droit dans ses bottes, il bataillait avec vaillance. Comme il brillait de mille feux, il se trouva une douce amie, lui dit « T'as les yeux malicieux et moi, j'ai un gros appétit. Je suis en forme, je suis en flamme pour ce tout premier rendez-vous. Je ne brûle que pour vous, madame. J'aspire à être aimée de vous. » Elle est ardente, il est épris, ils font des flammes et puis plus rien. Quand un coup de flemme le saisit, déçu, elle file au petit matin. Il est amer, il est mari, il cherche à oublier Marie, les chagrins, les soirs d'automne. La flemme est-elle l'avenir de l'âme? Et puis, il noie sa peine dans son métier, prenant des risques insensés, finit à la une du journal, mort pour cause de flamme fatale. Et prenant des risques insensés, finit à la une du journal, mort pour cause de flamme fatale.
Voilà à quoi ça rime d'aller se rincer le gosier. Aussi, pour terminer cette discussion fumante, avant de passer la porte, j'ai cru bon d'ajouter « vous aviez tort », car il n'y a pas que les tilleuls qui mentent. Il n'y a pas que les tilleuls, il n'y a pas que les tilleuls, il n'y a pas que les tilleuls qui mentent. C'est vrai quoi ? Il n'y a pas que les tilleuls, il n'y a pas que les tilleuls, il n'y a pas que les tilleuls qui mentent. Avec moi dans la place, il n'y a pas que les tilleuls, il n'y a pas que les tilleuls, il n'y a pas que les tilleuls qui mentent. Avec les gestes, il n'y a pas que les tilleuls, il n'y a pas que les tilleuls, ouais, il n'y a pas que les tilleuls qui mentent. Encore une fois, il n'y a pas que les
tilleuls, ouais, il n'y a pas que les tilleuls, ouais, il n'y a pas que les
tilleuls
qui mentent.
Sur les chaînes, il n'y a pas que les tilleuls, il n'y a pas que les tilleuls, ouais, il n'y a pas que les tilleuls qui mentent. Alors, pourquoi tu m'as dit ça? Tu vas me le dire? Pourquoi tu m'as dit ça? Jamais personne m'a parlé comme toi. Tu vas cracher, pourquoi tu m'as dit ça? Je t'adresse pas, je te cause, je voudrais savoir. Pourquoi tu m'as dit ça, bouffon, va? Pourquoi tu m'as dit ça, diva? Pourquoi tu m'as dit ça? Parce que y'a pas que les tilleuls. Y'a pas que les tilleuls, y'a pas que les tilleuls qui mentent, ouais c'est vrai. Y'a pas que les tilleuls, y'a pas que les tilleuls, y'a pas que les tilleuls qui mentent.
C'était l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs, conçue et réalisée par James Fontaine et Nathalie Vautier, avec à la technique Christophe Becquereau. Et ce soir, notre invitée, c'était Carole Battistini, qui nous est venue nous partager sa voix et ses textes.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Christophe.
Vous avez entendu des extraits de La violence des riches, des sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, Le discours de Suède d'Albert Camus, La chronique d'un infanticide annoncé et tout feu tout flemme, des textes de Carole Battistini. Vous avez entendu des musiques de Pink Floyd, des Ramones, des Charlots, des Flying Lizards, de Marilyn Monroe, de Patti Smith, d'Yves Montand, des Clash, des Ruts, de Catherine Waltenfeld et d'Anne Sylvestre. Vous avez aussi entendu des extraits d'Archimède le Clochard, de La folie des grandeurs et de Bernie. Nous nous retrouverons le dernier jeudi de mars pour la prochaine émission. Le dernier jeudi de mars, ça doit être le 28 mars. En attendant, passez une bonne soirée. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de garder les volets fermés ou de laisser entrer la lumière.